beaucoup de pourquoi. Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous raconter leur traversée, leur choc, leur peur, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais.
Aria, 35 ans, je suis en couple, je suis responsable communication, j'habite à Paris, j'ai un cancer colorectal, j'ai été diagnostiquée en novembre 2017 et c'est un cancer de stade 4.
Bonjour Aria.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue me rejoindre au micro d'À Coup de Pourquoi aujourd'hui. Ça fait longtemps que je te suis. En fait, depuis le début, parce qu'on vient de s'apercevoir qu'on a la même date de diagnostic et c'est très perturbant presque. Je suis ton compte pour le bien et la lumière que tu envoies. Tu es également partie prenante de la communauté cancer avec un cas. Depuis peu, tu en as fait même ton activité. Donc, j'ai vraiment envie d'écouter ton histoire. Je pense qu'elle aidera un maximum de gens. Ton histoire et la façon très particulière que tu as, toi, de traverser la maladie. Donc, la première question, Aria, c'est comment ça va?
Je vais super bien. J'ai fêté mes 35 ans la semaine dernière. Grosse fiesta et c'était génial. Donc, grosse énergie, tout plein de soleil dans le cœur et donc je vais très bien.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette maladie, fin 2017, est entrée dans ta vie?
Alors, ça a commencé en septembre. J'étais dans l'événementiel en train de faire un montage de salon de l'automobile à Francfort et j'ai eu des douleurs de ventre. Mon ventre est devenu tout dur d'un coup et c'est comme si en fait j'avais des diarrhées qui ne se déclaraient pas. Donc j'étais coincée et en fait j'ai été emmenée aux urgences là-bas et pour parler en allemand alors que je parle français, anglais, espagnol comme vous dire mais pas allemand, ça a été compliqué et en fait on m'a dit que j'avais une gastrite bactérienne. Ensuite, c'est passé. On m'a dit, buvez du bouillon, ça ira mieux. Ensuite, en octobre, j'ai encore eu des douleurs qui sont remontées jusqu'au cou. Donc, j'avais un torticolis et j'avais très, très mal au rein gauche. Et j'avais toujours le ventre très dur. Donc, je suis partie voir mon médecin généraliste qui m'a dit, écoutez, c'est normal. Il y a pas mal de gastro en ce moment qui se déclarent pas. Je dis, mais c'est étrange. Moi, je connais mon corps. Quand j'ai une gastro, je sais que ça expulse à un moment donné. Je vais chez le médecin qui me dit, c'est une gastro, ça va passer. Novembre, j'étais au Japon. Et je me souviens que dans la salle d'embarquement du retour, j'ai eu une montée de fièvre et j'ai passé 11 heures de vol à dormir complètement. Et en rentrant, j'avais dit à mon conjoint, s'il te plaît, va me prendre des probiotiques. Parce que là, ça va pas, mon ventre, je sais pas ce qui se passe depuis septembre, mais c'est un peu n'importe quoi tous les mois. Donc j'arrive en France, j'ai décidé donc le lundi de me mettre en télétravail et c'était trop difficile pour moi. Donc la veille, le dimanche, je fais appel à SOS Médecin. Donc le médecin arrive et me dit, ah mais ça, mademoiselle, c'est parce que vous mangez n'importe quoi. Mais oui, je vous fais une prescription, vous inquiétez pas. Paracétamol, blette, butternut. Ok, bon, 70 euros plus tard, il passe son chemin. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, j'avais 27 ans, on prend pas au sérieux en fait les jeunes qui ont vraiment très mal. Donc le lendemain, donc il y a ma sœur qui dit « Ariane ne va pas bien du tout ». Donc il y a mon conjoint qui s'appelle Simon qui part au travail, ma sœur qui prend le relais. Et moi qui suis dans le lit en essayant de travailler, puisque on était lundi, j'avais du taf et j'adorais mon travail. Ma sœur me fait donc une purée de butternut, comme le médecin l'avait dit. Et là, je mange et d'un seul coup, je vomis tout et je commence à hurler dans mon lit. Je tournais, quoi qu'il arrivait, je hurlais de douleur. Moi qui n'avais jamais eu de douleur forte dans ma vie. Donc on appelle les pompiers qui me disent « Mais mademoiselle, est-ce que son pronostic vital est en danger ?» Alors nous ne savons pas, j'ai juste très mal au ventre, s'il vous plaît. Donc on a négocié avec le SAMU pendant 45 minutes. Le temps qu'ils arrivent, vous êtes sûr qu'elle ne peut pas se déplacer aux urgences? Et en fait, au bout d'un moment, je crie « Envoyez une ambulance, s'il vous plaît, envoyez quelqu'un !» Il dit, c'est votre sœur qui crie derrière. Oui, ça ne va pas du tout. Et là, le SAMU est arrivé. Et j'ai été transférée à l'hôpital Saint-Antoine avec une douleur de 9 sur 10. Pour ne pas dire 10 sur 10, parce que pour moi, 10 sur 10, c'était la mort. Alors, en 20 minutes, il m'avait envoyé au scan, à l'écho. Et une demi-heure après, j'étais en salle d'opération. Parce qu'on pensait que j'avais un ulcère ou une appendicite. Donc, on prévient Simon et ma sœur qui étaient là. Mes parents habitent au Cambodge, donc c'était plus compliqué pour eux. Mon frère habite à Singapour avec sa famille, c'était aussi compliqué, mais ils suivaient déjà ce qui se passait. Donc, en fait, ils m'ont opéré en célioscopie, donc les trois petits points pour aller explorer. Et ils ont vu que l'appendice allait bien, que l'estomac allait bien. Et donc, ils ont décidé d'ouvrir mon ventre du bas du nombril jusqu'en haut du pubis. Déjà, c'est comme une césarienne d'urgence en verticale. Et en fait, ils ont vu que mon péritoine était rempli de pu et de matière fécale. Et donc, que mon côlon gauche sigmoïde avait perforé à cause de quelque chose qui l'obstruait. Et donc, ils ont enlevé cette chose. Ils ont nettoyé, récuré, bien raclé, comme ils ont dit, retiré une vingtaine de centimètres du côlon. Et ensuite, ils ont envoyé tout ça en analyse. Je mets 10 jours à m'en remettre. Je pense que ça n'arrive pas tous les jours qu'une personne de 27 ans arrive avec un côlon perforé. Je me réveille de l'opération 7 heures plus tard. Le premier truc que je veux faire, c'est prendre mon téléphone pour tenir au courant ma sœur, Simon, ma famille aux quatre coins du monde et mes amis. Le chirurgien était là, ma chirurgienne, qui a un énorme cœur. Je la remercierai jamais assez. Dans tous les cas, elle est venue se mettre à mon chevet. Madame Oum, je vois que vous avez les yeux ouverts. Vous vous en souviendrez sans doute pas. Mais je voulais vous dire que l'opération du côlon c'était bien passé et qu'on avait tout retiré et qu'on avait tout bien raclé et que ça va aller. Donc je sors d'une anesthésie générale et je dis en plus de l'ulcère. C'était pas un ulcère, c'était pas l'appendicite, c'était le côlon. Ensuite, je me fais hospitaliser. Donc mon frère est déjà dans l'avion. Mes parents sont coincés à Bali à cause d'une éruption volcanique. Les 10 jours qui ont suivi, il y avait mon frère, ma sœur, mon conjoint, mes amis très proches qui faisaient des relais à l'hôpital pendant les heures de visite pour que je ne me sente pas seule. Ils avaient prévenu ma famille éventuellement que ça pouvait être quelque chose de grave, mais qu'il ne fallait pas me le dire parce que j'avais besoin de récupérer, de cicatriser, mais que sans doute, ce n'était pas grand-chose et que c'était sans doute une diverticulite. J'étais très bien entourée. Je me souviens, c'était le 6 décembre. Je venais de finir ma liste de Noël, puisqu'on fait des listes de Noël chaque année. Et j'étais trop contente. Et là, le chirurgien arrive. Il dit bonjour, Madame Oum. Et je vois que son visage est complètement différent parce que d'habitude, elle est avenante, souriante, douce. Et là, elle était beaucoup plus fermée de visage. Il n'y avait personne. Une tante allait arriver, mais j'étais toute seule. Donc, elle m'a dit « Vous êtes toute seule ? Oui. Est-ce que je peux m'asseoir ?» Donc là, j'ai dit oui. Vous vous souvenez qu'on vous avait dit qu'on avait envoyé en anapath ce qu'on a retiré de votre côlon et que si c'était rien, bah c'était rien. Et là, je la regarde, ça veut dire que c'était quelque chose. Donc là, en fait, on a des bourdonnements d'oreilles, on voit un voile noir devant nos yeux. Je sens que ça ne va pas. Et là, elle me dit ce qu'on a retiré de votre côlon, c'était un cancer. Elle a dit c'était. Ça m'a beaucoup aidée. À me dire
tout est important, en fait.
Oui, chaque mot est important. C'était un cancer, c'est-à-dire qu'on a retiré le cancer. Elle m'a dit, on a tout retiré. De toute façon, quand on a ouvert, on s'est dit, ça ressemble à un cancer du côlon. Donc, on a opéré comme si c'était un cancer. Et on a bien fait, puisque c'était un cancer. Donc, il avait perforé le côlon. Et apparemment, ça faisait pas si longtemps qu'il était là. Mais il était déjà bien conséquent en termes de taille. Puisque, à nos âges, les cellules se développent vite. Ça, il faut pas l'oublier. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre en compte très vite.
Réagir le plus vite possible.
Réagir le plus vite possible, tant du côté patient que du côté médical, quand quelqu'un a vraiment des douleurs qui sont plus fortes, parce que dans le ventre, il peut y avoir plein d'autres problèmes. Il y a tout ce qui est RCH, il y a tout ce qui est MISI, il y a tout ce qui est endométriose et côlon irritable, et tout plein de choses qui font que je pense que c'est important d'aller vérifier, quoi qu'il arrive, avec des examens.
Si vous avez mal, allez vous faire checker, quoi.
Voilà, pousser les diagnostics. Pousser, même s'ils ne veulent pas trouver ce que j'ai.
À partir de ce moment-là, j'imagine que c'est le branle-bas de combat de comment on traite ça. Comment ça s'enchaîne ? Est-ce que tu peux nous raconter déjà les grandes lignes de ce que tu vas subir comme traitement jusqu'à maintenant ?
Dès qu'elle m'annonce ça, il fait tout noir, il fait tout sombre, j'entends plus rien. Mais j'ai 3 questions qui arrivent dans ma tête. Première, c'est est-ce que je vais mourir ? Elle m'a dit le cancer colorectal priatant est un cancer qui se soigne très bien. La deuxième, c'est est-ce que je vais pouvoir être maman ? Le but d'une vie à l'époque, en fait, en tout cas de ce qu'on m'avait mis en tête et de ce que j'ai cru aussi, la société, les films, la famille elle-même, de se dire je vais reproduire, c'était d'avoir une famille, d'avoir une propriété et des enfants, un chat.
Parce que quand on traverse le cancer, on sait que c'est pas forcément ce qu'on nous apprend finalement la vie.
Et non, on se rend compte que finalement la vie c'est bien plus que ça et la vie est différente pour chaque personne et quoi qu'il arrive, je pense qu'on a un parcours qui est prévu pour nous. Si on est sur le chemin, il faut essayer de trouver les clés pour continuer à marcher dessus.
Ce que tu disais, c'était donc cette idée de faire des enfants parce que, comme tout un chacun à cette époque-là, c'est le chemin que tu voulais suivre. Et troisième question ?
Et la troisième question, c'était plus dans ma tête que je me le suis dit, c'est comment je vais l'annoncer à mes parents. On est 5, 3 enfants avec mes parents. Et je suis la dernière, j'ai toujours été extrêmement choyée. Mes parents ont vécu des traumas, puisqu'on est cambodgiens. Vous connaissez l'histoire hein, des Khmers rouges, mais j'avais pas envie de leur ajouter ça en plus dans leur retraite qui commençait à peine. Et je voulais pas gâcher leur retraite alors qu'ils ont travaillé toute leur vie pour avoir un moment d'accalmie, enfin. Et je me dis, mais c'est pas possible. Comment je vais l'annoncer à mes parents ?
En fait, tu penses pas vraiment à toi. La première chose, tu penses à ton entourage, à tes proches, quoi.
Oui. La suite, c'est que le chirurgien m'explique que je vais être mise en contact avec l'oncologie de Saint-Antoine et que je vais sans doute partir pour une chimiothérapie de 12 cycles sur 6 mois avec un suivi constant entre mon chirurgien et mon oncologue. Donc, je rencontre mon oncologue directement. Elle m'explique que je vais avoir une chimiothérapie qui s'appelle FOLFOX. Donc, on passe une demi-journée en hôpital de jour où on est perfusé à l'hôpital. Et après, on rentre à la maison avec le Baxter, ce biberon que j'appelle une gourde de chimio qui perfuse pendant 46 heures. On m'explique tous les effets secondaires. Je demande si je vais perdre les cheveux, puisque en fait, la seule image qu'on a du cancer, je ne sais pas si c'est à cause des films, c'est le crâne chauve. Mais en fait, il y a énormément de chimio qui ne font pas perdre les cheveux. De ce côté, ils disent normalement, ça ne fait pas perdre les cheveux, mais le système immunitaire est mis à rude épreuve. Et vous allez avoir peut-être quelques cheveux qui vont tomber, mais ça va aller. Effectivement, je n'ai pas tout perdu. Mais en gros, avant même de commencer la chimiothérapie, étant donné que ma deuxième question, c'était est-ce que je vais pouvoir être maman, un jour, on m'a fait une préservation d'ovocytes. Donc moi, j'appelle ça ma boîte de 8 œufs qui sont préservés à l'hôpital Tenon. Et je suis très heureuse d'avoir ça, mais je vais vous expliquer pourquoi après, est-ce que ça sert de les avoir ? Tous les 15 jours pendant 6 mois, la chimiothérapie est très difficile pour moi, je suis très sensible, j'ai beaucoup, beaucoup de nausées. J'ai l'impression d'être dans une barque au milieu d'un océan enragé. En lendemain de cuite, ça fait beaucoup. Pendant une semaine, après la perfusion.
Et ça, pendant 6 mois, plus donc ouais, tous les effets, j'imagine, de la chimio.
Les neuropathies, en fait, c'est on ne sent plus nos doigts. On peut plus toucher du froid, j'arrivais plus à fermer des boutons, on fait tomber des verres, la toxicité du deuxième produit qui est dans le biberon qui vient noircir la peau. Les 6 mois de chimiothérapie se sont changés en 8 finalement. J'ai été victime d'aplasie hein, avec la chimiothérapie et on a dû sauter des chimiothérapies pour mon bien, pour que je puisse continuer. Ce qui m'emmène à juillet 2018 et c'était pendant la Coupe du Monde que j'ai appris que c'était la fin et je me souviens que c'était une des meilleures semaines de ma vie. Donc, septembre 2018, je reprends le travail. Mes chefs de l'époque, géniaux. Prends ton temps, Aria, si tu veux, prends ton temps. Fais autant de télétravail que tu veux. De toute façon, c'est vu avec les RH. Vraiment, prends soin de toi. On ne veut pas que tu te fatigues. Et moi, j'étais là, non, c'est bon, je reprends à 100%. J'ai repris à 100% en plein milieu du salon de l'automobile, puisque j'étais dans l'automobile. Et c'était super. Juste avant de savoir que j'étais malade, je venais d'atteindre un level professionnel que je voulais atteindre vers 35-40 ans. J'avais 27 ans et en fait, c'est ma chef de l'époque, ma bonne fée, ma belle étoile, qui m'a offert d'ailleurs ce collier que j'ai autour du cou. Il y a écrit Forever avec une étoile là à mon anniversaire. Donc, merci. Et j'avais peur de perdre cette carrière que je chérissais puisque j'adorais mon métier. J'ai eu des belles personnes sur le chemin et j'ai repris à 100% et ça s'est très bien passé pendant 2 ans et demi, vie normale.
T'as des petits contrôles ?
Tous les 3 mois.
Ça se passe bien ?
Ça se passe très bien. Donc, entre juillet 2018 et avril 2020, donc c'est un examen comme les autres. D'habitude, il y a toujours quelqu'un qui vient avec moi ou pour me rassurer, mais en fait, finalement, on s'est rendu compte que ça se passait bien. 2 ans et demi après, j'arrive, je vais au scan, comme d'habitude, en sifflotant. Et en sortant, on vérifie toujours si j'ai pas une allergie, parce que je suis allergique à tout. Donc j'attends 5 à 10 minutes pour voir si j'ai pas des éruptions cutanées après le scan. Et pendant cette attente, il y a le médecin du scan qui sort de sa salle et qui vient vers moi. Et ça me plaît pas du tout, parce que le médecin du scan ne vient jamais vers les patients.
C'est fou tout ce que tu dis, parce qu'en fait, je me reconnais tellement.
Toi aussi ?
Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on est tellement à l'affût de tous les signaux. Quand tu dis le médecin sort et j'aime pas. On a appris à scanner les gens, à savoir dès qu'il y a un truc qui change, en fait, c'est pas bon. Quoi.
Ouais, c'est pas bon du tout.
Ta routine, tu sais très bien que ce qui est le plus rassurant, c'est que tout se passe toujours pareil, quoi, en gros. Et dès qu'il y a un regard bizarre, dès qu'il y a un mec qui sort, je te laisse raconter. Mais je me reconnais, ouais.
On ressent le bon comme le mauvais. Je sais pas ce qui se passe avec le cancer et la maladie, mais ça peut transformer de l'intérieur. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Je suis de plus en plus, entre guillemets, connectée. pas à la 5G, hein, mais au ciel. Et c'est très, très, très étrange ce que je peux dire. Mais en tout cas, moi, c'est dans mes croyances, dans mon prisme à moi. J'arrive à ressentir les gens. Et là, je sens que ça ne va pas. Donc, il sort et il dit, écoutez, mademoiselle, votre ovaire, en 3 mois, a triplé de volume. Ne vous inquiétez pas, c'est peut-être par rapport à votre cycle. Vous avez rendez-vous avec votre oncologue bientôt? Je dis, oui, bien sûr, là, j'ai fait un scan et j'avais rendez-vous avec elle le lundi. Et je sais qu'il y a un protocole à l'hôpital, je l'ai appris il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui fait que quand il y a une mauvaise nouvelle, on l'annonce jamais à un patient avant un week-end. Mais en gros, lundi, quand je suis arrivée, j'étais extrêmement stressée. Donc j'ai eu 4 jours à me préparer, à me faire tous les scénarios possibles. En plus, on était en confinement, ça se passait tellement bien. Entre-temps, j'avais emménagé avec Simon, on avait pris un chat. Le confinement nous a rapprochés, on a passé du temps ensemble. Ça a calmé cette vie parisienne trépignante où on s'arrêtait jamais. Et là, en fait, bah, il fallait quelque chose pour venir un peu casser ce bonheur à 100%. Et le lundi, donc, j'arrive et mon oncologue, je vois qu'elle elle a le visage un peu fermé. Et j'ai dit, je sais, vous le savez, je sais qu'il y a quelque chose sur mon ovaire, le médecin du scan est sorti, mais je n'ai pas voulu vous déranger parce que je sais que vous êtes très occupé, je ne voulais pas vous appeler. Elle me dit, vous auriez dû, moi je voulais vous appeler, mais je ne pouvais pas vous appeler. Je voulais que vous profitiez de votre week-end avant d'avoir cette nouvelle, mais c'est le cancer colorectal qui a métastasé, qui s'est enrobé autour de mon ovaire. On m'explique que je vais repartir dans une chimiothérapie qui s'appelle Folfiris cette fois-ci, alopéciante, pas complète. Donc je garde mes sourcils, je garde le peu de poils que j'ai, mais les cheveux vont tomber. Et donc là, c'est un choc pour moi. Je ne m'y attendais vraiment pas dans le fait que j'ai toujours mis des œillères sur les choses négatives qui peuvent arriver. Donc moi, je me suis toujours dit, la vie est belle, je suis un bisounours depuis toujours. Mon frère et ma sœur sont toujours moqués de moi depuis que je suis toute petite parce que je m'émerveille d'un rien. J'en ai parlé à mon oncologue. Je dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas parlé d'un risque de récidive? Parce que je n'étais pas au courant à l'époque. Elle dit, parce qu'on voulait vous laisser profiter de votre vie. On ne voulait pas que vous viviez 2 ans et demi avec une peur, parce que ça se trouve, ça ne serait pas revenu. Après 2 ans et demi, c'est un peu le rythme de développement cellulaire à votre âge. Et donc, le rythme qui fait que la cellule, qui est microscopique, commence à se voir au scan. Et effectivement, c'est à 2 ans et demi, pile le 27 avril, 27 novembre, 27 avril, que j'ai su que j'avais un cancer du côlon stade 4 métastatique. Comme dans les films américains, on se dit « le stade 4, c'est phase terminale ». Pas du tout. Je vous rassure, le stade 4.
Non.
Non, pas du tout. On est toutes les deux là, oui. Super en forme.
Exactement. Et on est belles.
Et belles de fou. C'est le premier truc que j'ai dit en arrivant à Magali.
C'est une annonce super difficile. Enfin, moi, je l'ai subi aussi, cette annonce, où on comprend qu'en fait, le cancer n'est plus localisé. Donc, on comprend finalement que c'est quelque chose qui va être au mieux chronique, c'est-à-dire qui va exister toujours dans notre vie de toute façon. Enfin, je ne sais pas si tu as compris à ce moment-là. Moi, j'ai mis des mois à comprendre.
Non, à cette époque, je ne savais même pas que le cancer pouvait être chronique. Je me disais, soit il tue, soit on reste.
Bah, de toute façon, c'est ça. Hein. Et c'est bien de rester. Et on reste.
On reste. Moi, je reste en tout cas.
On reste. Moi aussi, je reste. Il y a aussi, tu l'as évoqué là, ça a l'air de rien du tout en comparaison, mais il y a quand même cette annonce des cheveux.
Oui, alors c'est vrai que quand on se dit « je vais perdre les cheveux », je fais « waouh ». J'ai vu qu'il y avait les frangines à cette époque.
Julie. Salut Julie.
On t'embrasse. Qui faisait des tutos turbans sur YouTube. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les frangines, parce que je voulais écrire « comment nouer un turban ». Et j'ai découvert Julie grâce à ça. C'est elle qui m'a dit « c'est bon, t'inquiète pas, tu peux perdre les cheveux, tu seras belle quand même ». J'avais des petits carrés parce que mon père travaillait chez Cartier à l'époque et avait offert des carrés Cartier à ma mère. Et j'en avais plein à la maison qu'elle m'avait laissé. Parce qu'au Cambodge, il fait chaud pour porter des foulards. Et j'ai commencé à faire des nouages, etc. Échec. Gros échec au début. Hein, mais j'ai commencé.
Facile, hein.
C'est hyper dur.
Ouais.
J'aurais dû les raser avant. Mais je voulais les garder tant que j'en avais. Jusqu'à ce que mon chéri me dise, ma chérie, je suis vraiment désolée de te dire ça. J'avais fait une coupe courte. Je pense qu'il faut raser ta tête parce que tu ressembles à une sucette tombée sur le tapis. Donc en fait,
qu'est-ce que c'est que cette image?
Bah, c'est rigolo. Imaginez juste une sucette qui a été léchée, qui est tombée sur un tapis avec plein de poussière.
Ah zut.
Bah, mes cheveux, c'était ça, Gollum. Sinon, ou alors. Il dit, ce sera mieux la tête rasée, je pense que tu auras moins mal aussi. Parce que j'avais très très mal au cuir chevelu, ça fait très très mal de perdre les cheveux. En plus de ça, j'avais une thérapie ciblée qui me faisait des plaques au cuir chevelu, des croûtes, ça me faisait mal. Donc voilà, on a attendu que ça se calme un peu. Et mon chéri m'a rasé la tête le lendemain où j'ai su que j'allais pas pouvoir préserver mon deuxième ovaire et mon utérus. Donc, je commence la chimiothérapie. À peine la première semaine, j'ai très, très mal au ventre et je retourne aux urgences. Il y a mon oncologue qui passe très tard, hein, pourtant. Il était tard. On va devoir, malheureusement, vous retirer l'ovaire qui est malade. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez le deuxième et ça va aller. D'accord. Bon, ben, on y va. Hein. De toute façon, j'ai tellement mal. Enlevez-moi ça. Donc, je me souviens, en fait, qu'arrivé sur la table d'opération, opération en urgence, je ne voulais plus ressentir cette douleur atroce. J'ai tiré sur le masque. J'ai compté 10, 9 ou 1, 2 et pouf, je me suis endormie. Et j'avais eu une péridurale. Et la péridurale, c'était la vie pour moi. En tout cas, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aidée dans ce post-opératoire. Je me réveille, j'ai plus de douleur. Je suis sous morphine. On m'a réouvert la cicatrice. On m'a retiré l'ovaire. J'ai continué la chimiothérapie. J'ai eu encore toutes ces rééducations. Je mets au moins 10 jours à me lever, enfin, à me lever vraiment. Quand on se lève plus vite, on se remet plus vite. Et moi, je n'avais pas compris ça à l'époque. La cicatrisation, mais plusieurs mois, plusieurs années. Mais finalement, voilà, la cicatrice sur le ventre, moi, je l'avais depuis 2017. Ça m'a toujours pas vraiment dérangé, même si le ventre était la plus belle partie de mon corps. Et je me suis dit, bah, de toute façon, elle est là, c'est le signe de mon combat. C'est elle qui m'a sauvé la vie, donc je l'aime, cette cicatrice, et tant pis. Si les gens ne l'aiment pas, moi, je m'en fiche, je l'aime. Mon oncologue m'a dit, écoutez, Madame Homme, malheureusement, on ne veut pas qu'il y ait d'autres foyers de récidive. Pour vous, c'est votre choix. Je vous laisse réfléchir. Mais le mieux, c'est de retirer votre utérus parce qu'en fait, il est collé au rectum. Et j'ai fait en sorte qu'on essaye de sauver mon dernier ovaire pour pouvoir en fait continuer à me prélever des ovocytes. Malheureusement, cet ovaire, on n'a pas pu le sauver non plus. Parce qu'il aurait pu continuer à créer, même si au milieu de nulle part, il aurait été là en méditation, en lévitation. Je me suis dit ça. Et on aurait pu le sauver, mais en fait, on l'a retiré en septembre 2020. Avec mon utérus, les deux.
Ça, en même temps.
Voilà, troisième laparotomie.
Ça signe une autre étape quand même. Plus d'ovaires, plus d'utérus.
Exactement. J'en suis au deuil de la maternité. Puisqu'en fait, je sais que je ne serai jamais maman. Et ça, c'était un rêve de petite fille. Donc en fait, ce deuil, ça a été la chose la plus compliquée à vivre dans cette maladie. C'était ma plus grosse peur dans cette maladie. Et mon conjoint, à cette époque, m'a beaucoup rassurée, même si on n'avait jamais parlé enfant, puisque ça faisait 2 ans qu'on était ensemble quand je suis tombée, quand je suis tombée dans la maladie. Oula, j'ai failli faire... quand je suis tombée enceinte, non. Bref. Et on m'avait proposé de retirer mon pack aussi à cette époque. Et moi, j'ai dit non, mon pack, je le garde, parce que je reste prévoyante. Et je me dis, si ça revient, au moins, j'aurai une opération en moins. Et effectivement, j'ai bien fait de le garder, ce pack, parce que c'est toujours le même depuis 2017.
Tu l'as jamais enlevé, ton pack?
Je l'ai jamais enlevé. En anglais, il y a un mot qui définit mieux, c'est « excruciating ». C'est vraiment, ça vient nous briser de l'intérieur. Ça vient, c'est la plus grosse peur de notre vie qui arrive. Parce que moi, je n'ai pas peur de la mort. Donc, ma plus grosse peur, c'était de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et finalement, mon conjoint m'a dit, mais il y a d'autres solutions. Et puis, j'ai des ovocytes. Je dis oui, mais j'ai des ovocytes, mais j'ai plus d'utérus. Donc, j'en ai parlé à mon oncologue avant d'enlever mon utérus. J'ai essayé de partir en Espagne. J'ai essayé de partir en Ukraine pour pouvoir me faire des prélèvements d'ovocytes ailleurs, dans d'autres pays où la GPA était possible. Malheureusement, il fallait faire un stop de 6 mois dans la chimiothérapie et mettre un stop de 6 mois dans ma chimiothérapie, ce serait mettre ma vie en danger. Donc, je n'ai pas pu partir. Donc, j'ai juste mes 8 ovocytes sans utérus. Et en France, ça ne sert à rien. Je n'ai pas le droit de déplacer mes ovocytes dans un pays où la GPA est...
Ah, c'est ça, c'est parce que tu ne peux pas partir avec tes ovocytes.
Exactement. Bah, je voulais déjà multiplier le fait de pouvoir en avoir un peu partout. Mais quand j'ai su que, en fait, finalement, mes ovocytes qui sont à tenon, ils n'ont pas le droit de bouger. Ah, du coup, avec mes amis, on a dit qu'on allait organiser un casse avec une petite glacière.
Avec des bandeaux, des lampes torches et tout à l'hôpital.
En disant, c'est à moi, j'ai le droit de partir avec. Non, je n'ai pas le droit, malheureusement. Et comme moi, les règles, c'est les règles. Je ne le ferai pas. Donc, je me réveille de cette opération. J'arrêtais pas de faire des cauchemars. En fait, on avait pris un chat. Que mon chat perdait ses viscères. Et que j'arrêtais pas de devoir rentrer ses viscères dans son ventre. C'est affreux. Des cauchemars toutes les nuits. En hospitalisation, toutes les nuits. Toujours les mêmes cauchemars. Et en fait, j'ai fait un transfert étrange à partir de ce moment-là. Sur mon chat, qui est devenu mon fils. Et je suis complètement consciente de ça. Mais mon chat, c'est mon fils.
C'est drôle d'être aussi conscient.
Oui, je suis consciente de ça, direct. J'avais besoin de me dire, si je suis mère, en fait, et si je peux être une bonne mère. Parce que je suis une bonne mère pour mon chat. Donc, j'ai fait quelque chose de très, très étrange, mais ça m'a beaucoup aidée dans ce deuil, en fait.
Voilà. Ouais, c'était une façon d'accepter, quoi.
Et je me suis réveillée de cette opération avec une iléostomie. Donc, il y a une poche au niveau droit de l'intestin, à droite du nombril, qui permet de récolter mes selles à la place de mon rectum. Comme j'avais eu une opération de l'utérus, on a aussi enlevé à nouveau un endroit du côlon pour que la cicatrice tienne, vu que j'ai déjà eu deux fois une coupure au niveau du côlon. Il fallait que j'ai les selles qui partent par un autre endroit et laisser reposer le côlon pendant quelques mois. Comme on m'a dit que c'était temporaire, j'ai vraiment du mal à m'y faire. Ma mère étant infirmière, elle sait changer les poches.
Donc elle s'occupe de toi.
Elle s'occupe de moi. Donc on est ensemble et on est contents. Moi, j'ai toujours été contente quand même. Malgré tout ce que je vis, j'ai toujours été contente. Donc ça, c'était la chimiothérapie de 2020 encore. Hein. Donc j'ai une thérapie ciblée en plus qui fait que ça attaque les cellules à un renouvellement rapide, donc la peau. J'ai eu un rash cutané au niveau du buste, du haut du dos et du visage qui fait que je ressemblais à une chips ou de la bonite. C'est du poisson séché et ça a été très, très dur. Donc au même moment que l'annonce, en même moment que l'opération, au même moment que du rasage de crâne, à ce moment-là, il y avait tout en même temps. Et je me suis complètement déconnectée de mon corps pour qu'il prenne les coups à ma place. Je ne me regardais plus parce que c'était plus possible de me regarder. Et parfois, je me regardais dans le miroir et je me trouvais drôle. Mais je m'aimais quand même. Parce que je savais qu'en dessous, il y avait quelqu'un de joli. Et en fait, j'ai eu tort de penser comme ça parce que j'étais quand même belle. La beauté dans le cancer, c'est vraiment quelque chose qui est très important, de se sentir beau à l'intérieur comme à l'extérieur, dans le cœur et dans la peau.
Aujourd'hui, t'en es où après tout ça ?
Alors, c'est tellement long. Ce podcast pourrait durer des heures. Je suis vraiment désolée de parler autant. Mais depuis 2020, je suis en traitement. Là, mardi prochain, j'ai ma prochaine chimio. J'ai 66 chimiothérapies. Donc, on fait le compte. 3 laparotomies, 1 néostomie, 2 ovariectomies, 1 hystérectomie, 2 colectomies. Mais j'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui dans ma vie. Entre-temps, j'ai revécu 2 récidives au niveau du foie. Donc, c'est pour ça que je suis encore en chimio actuellement. En fait, j'avais démissionné de mon ancien travail. J'ai été embauchée dans un nouveau travail. Entre les deux, j'ai appris une récidive sur mon foie avec 2 métastases visibles au scan. Et donc, c'est reparti. Je reprends les armes, je veux dégommer ce cancer. C'est vraiment le mot que j'utilisais à l'époque, je vais te dégommer. Je ne l'ai jamais haï, mais là, il commençait à... C'est la première fois qu'il me faisait peur. Et c'est à ce moment-là que 2 personnes très importantes sont revenues dans ma vie. C'est Rémi, mon master Reiki. À ce moment-là, j'avais décidé de me dire, en plus de la chimiothérapie, j'ai envie de faire quelque chose qui va m'aider à aller mieux psychologiquement. Et pile à ce moment-là, j'ai un ami qui dit, écoute Aria, j'ai su que tu avais un cancer, depuis le début je te suis, puisque tu en parles sur les réseaux, bravo pour cette force. Lui avait vraiment envie de m'apporter quelque chose et il m'a dit, je me suis formée en Reiki et je vais pas tarder à être master Reiki, donc j'aimerais, si tu le veux bien, t'aider dans ce nouveau chemin, vu que tu viens d'apprendre une récidive et on vient de le savoir. Donc il arrive à ce moment-là. Et le lendemain de l'hystérectomie en 2020, j'ai mon amie Laurine qui est revenue dans ma vie. En fait, il a vu sur Instagram aussi que je faisais des cauchemars et il m'a dit, écoute Aria, j'ai vu que tu étais malade. Et il s'est dit, je voulais revenir, mais pas pour rien. Je fais des méditations, je sens les choses et je sens que tu ne vas pas bien. Et je veux t'aider et je vais t'aider à guérir tes rêves. Et là, j'ai dit, mais de quoi il parle ? Pourquoi ? Et moi, je n'y croyais pas à ces choses-là à l'époque. Et je vais te faire une méditation sur les rêves cette nuit. Tu vas enfin trouver le sommeil et arrêter de penser que ton chat va mourir. Le lendemain, il me contacte, il me dit, ça va, t'as bien dormi ? C'était bien le chalet ? Comment tu sais ? Il dit, je sais pas, moi, dans mon rêve, j'étais dans un chalet et je te voyais. Et je te faisais coucou. J'ai dit, c'est incroyable ce que tu me dis, c'est incroyable ce que tu me dis. J'ai pas fait de cauchemar cette nuit, c'est la première fois en 5 nuits d'hospitalisation. Je marchais dans une forêt, il y avait la lune au-dessus de nous, et j'arrivais au fond de cette forêt dans un chalet avec un feu de bois, des petites guirlandes, tous mes amis. Et lui, il était à l'étage du dessus et il me saluait. Et à partir de ce moment-là, nous trois, en trio, on s'est poussé vers le haut, mais c'est eux qui m'ont appris la spiritualité et qui ont changé mon regard sur le monde aussi, qui m'ont appris à regarder la lumière que j'avais en moi.
J'en étais sûre, c'est ce qu'on sent quand on te voit, la lumière justement.
Ah ben, en fait, j'ai une équipe spirituelle, j'ai une équipe d'aidants proches qui sont incroyables et je les remercie tous les jours d'être là, tous, la famille, les amis. Et j'ai cette équipe à côté de masters et de guides qui m'aident dans mon développement personnel. Je me suis formée au Reiki. J'arrive tous les jours à trouver des nouvelles clés de développement dans ma tête, perso, pour aller mieux. Et plus je vais mieux, et plus mon corps va mieux. Et cette féminité, ça a été très compliqué. Mon chéri l'a vu que je ne me sentais pas bien dans ma peau et que j'essayais de lui attirer son attention, etc. Lui, de son côté, ça a été très compliqué psychologiquement. Après 3-4 récidives, il s'est protégé et ça a été très, très dur pour lui. Je ne parle pas beaucoup de lui parce que je le préserve, mais ça a été très, très dur pour lui, ça a été très, très dur pour moi, ça a été très, très dur pour nous. La culpabilité est partout dans le cancer. C'est l'une de mes plus grosses peurs aussi, c'est de faire du mal aux gens que j'aime. Et en vrai, Simon, c'est un guerrier. Il est là à côté et on lui a toujours dit « t'es un rock, t'es un rock, t'es un rock ». Mais à force de lui dire que c'est un rock,
c'est pression,
c'est trop dur, c'était trop lourd à porter. Et du coup, mes amis ont pris ce relais de venir m'aider en chimio toutes les semaines, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui s'occupent de moi. C'est une personne par jour et Simon le soir qui rentre à la maison, qui me donne son amour dans sa nourriture, qui est ce qui me fait à manger tous les jours. Et voilà, c'est juste incroyable. Et de l'autre côté, j'ai ces guides spirituels incroyables qui m'ont fait me rattacher à ma foi. Je me suis ancrée dans mes origines, enracinée dans celle que je suis aujourd'hui et celle que je devais incarner aujourd'hui. Et je pense clairement que même si environnementalement, effectivement, ça a pu jouer sur mon cancer, puisque ce n'est pas génétique, on a fait des recherches, etc. Je suis persuadée que ce cancer vient de choses que j'ai vécues, puisque je suis croyante, donc je crois en réincarnation, des choses que j'ai vécues dans d'autres vies, ou des choses qui se sont passées, des blessures qui sont passées de génération en génération. Donc maintenant, je crois très fort à ces choses-là, dans mon propre prisme. Je ne dis pas que c'est une croyance universelle. J'essaye de ne pas avoir de croyances limitantes. Pour moi, toutes les religions sont de très, très belles forces de foi, de lumière, de vie, d'amour. On trouve quelque chose
dans la spiritualité.
Dans la spiritualité, dans la foi.
Alors, j'ai des petites questions pour toi, des questions qui, moi, me taraudent et j'ai vraiment envie d'avoir ton idée dessus. Tu vois, ce qui est important pour moi dans la traversée de la maladie, c'est qu'est-ce qu'on fait de la peur? Est-ce que toi, Aria, t'as peur de quoi, Aria?
C'est incroyable que tu parles de ça parce que, en fait, j'ai une liste des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Il doit y avoir 50 points, 60 peut-être. Là-dedans, il y a beaucoup de peur. Et en fait, au bout d'un moment, je crois que l'un des derniers que j'ai mis, c'était il y a 6 mois, je crois, j'ai écrit « ne plus utiliser le mot peur ». C'est-à-dire que le fait d'avoir peur, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Après, je ne dis pas que parce qu'on est positif, qu'il ne va rien nous arriver, certes. Mais je l'ai remarqué par mes propres yeux que depuis que je pense que lumière et je pense que oui, positif, etc., il ne m'arrive que des belles choses et tout s'aligne dans ma vie. J'ai décidé de retirer le mot peur de mon vocabulaire. Les seules fois où je l'utilise, c'est dans justement ce développement perso, en disant je travaille mes peurs pour qu'elles n'existent plus. Donc mes peurs aujourd'hui, c'est de faire du mal à mes proches. La culpabilité autour de ça, c'est très très difficile. Après, j'ai d'autres peurs. J'ai toujours pas peur de la mort. Si elle arrive, elle arrive. Si elle arrive pas, bah, c'est génial. Mais mes peurs, elles sont irrationnelles. J'ai peur de la profondeur quand je vois pas le fond. J'ai peur des limaces. J'ai peur des asticots. Et en fait, petit à petit, j'avais peur de me faire des piqûres en moi-même. C'est des petites peurs que je travaille et j'en parle sur Instagram justement à chaque fois que je vis une nouvelle, quelque chose de nouveau. Et je dis, allez Aria, tu vas y arriver, tu affrontes cette peur comme ça, elle n'existe plus.
Tu dépasses.
Je dépasse cette peur, comme ça, je n'utilise plus le mot peur dans ma vie. Je dis jamais, oh, j'ai peur d'être en retard, parce que le fait d'avoir peur d'être en retard, ça envoie un message à l'univers qui te dit, bah, finalement, tu vas être en retard parce que tu as eu peur d'être en retard. Si tu ne poses pas de questions, si tu fais le vide, il y a moyen que tout s'aligne et que en fait, les choses devant toi se poussent. Ouais, je crois au karma et je passe vraiment au destin qui te dit, bah, écoute, si tu es bien aligné, ça va bien se passer.
Et alors, la question du podcast, Aria, le pourquoi en deux mots, est-ce que tu as la sensation que la traversée de cette maladie t'a transformée? Est-ce qu'il y a un sens à trouver à ça?
C'est même pas une sensation que je ressens d'être transformée, c'est que je suis métamorphosée. J'ai compris qui j'étais, même si je me transforme, chaque nouveau jour est une nouvelle personne puisque je trouve des clés sur mon chemin. Mais en fait, aujourd'hui, depuis que la lumière de mon cœur est mon phare pour avancer, j'ai plus à marcher dans le noir. Et je sais que j'ai toujours toutes mes autres personnes qui, avec moi, qui sont tous derrière. Mes amis, ma famille, mes ancêtres, mes guides. Et ils sont tous derrière avec la lumière de leur cœur aussi. Et la lumière est juste incroyable. Et je pense que c'est ça qui fait pousser les démons. Et aujourd'hui, oui, je suis complètement transformée, métamorphosée carrément, parce que j'ai remis du sens dans ma vie, puisque j'adore ce métier de responsable communication et j'avais envie de mettre du sens dans mon métier. Et j'ai décidé, donc fin de l'année dernière, donc, c'est-à-dire on revient en octobre 2023, je me suis mise en activité freelance qui s'appelle Ariaoum Communications, simplement, où en fait je souhaite donner tous les conseils corporate, communication, brand, donc la marque, les stratégies de marque, les messages de marque, les messages produits, pour les marques, les associations, les entreprises, les startups qui ont pour cœur de mission la recherche contre le cancer et le bien-être patient. C'est ce que je fais depuis 2020 sur les réseaux. Il y a beaucoup de marques comme La Roche-Posay, même Cosmétique, Résilience, qui m'accompagnent. Et aujourd'hui, j'ai envie de les aider à mon tour à continuer de faire passer ce message qui est très important, d'aller se faire sensibiliser. Là, on est en mars, c'est mars bleu. Et il n'y avait pas grand-chose sur le cancer colorectal sur Instagram, en tout cas en France, quand je suis arrivée en 2017. Et aujourd'hui, je me suis autoproclamée ambassadrice du cancer colorectal parce que je voulais devenir cette voix qui n'existait pas.
Donc, on pourrait dire pour transmettre et aussi un peu pour la lumière, non ?
Oui, pour la lumière, ouais. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'étais une guerrière de lumière. J'ai décidé de ne pas me battre contre le cancer. J'ai décidé de l'aimer, ce cancer, pour lui apporter de la lumière pour qu'il puisse se libérer. Rémi, mon master Reiki, l'année dernière, avant que je commence, en février 2003, la dernière chimiothérapie qui a duré un an, là, m'a dit « Aria, je ne pourrais pas te suivre sur cette chimiothérapie si tu as de la haine en toi. Si tu as de la haine contre ce cancer, puisque ce cancer, c'est une partie de toi. » J'ai mis du temps à le comprendre. Tu ne peux pas être en colère contre quelque chose qui t'appartient. Ce n'est pas extérieur. Le cancer vient de toi. C'est une cellule qui t'appartient. Tu ne l'as pas avalé, il n'est pas arrivé dans ton corps. Ça a fait bing, ça a lumière ampoule. C'est que si j'aime ce cancer, je lui envoie de la lumière pour qu'il puisse se libérer et qu'il n'existe plus. Et me libérer. Voilà, c'est ça le but de ma vie aujourd'hui.
Aria, merci beaucoup d'être venue nous transmettre justement ta lumière. C'est exactement ce que je ressens. Merci pour cet épisode éclairant. Merci.
Merci Magali.
Et bonne route.
Et merci. Et je voulais juste rajouter que le pouvoir de la communauté, ben là on s'est connus comme ça, hein. C'est tellement important. On se tient la main virtuellement. Restez pas seul. L'isolement dans le cancer est très difficile. Nous sommes là pour vous écouter. Moi, en tout cas, je suis là pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, sur mon compte qui s'appelle Yayoum.
Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts et en rédigeant votre commentaire. Merci.